Bonjour chers amis, ou plutôt rebonjour, bienvenue dans la seconde partie de cette émission où nous allons parler avec Jacques Cardoz de son livre « Les Inquisiteurs ». Jacques Cardoz a été rédacteur en chef de Cache, complément d'enquête, envoyé spécial. Donc il a quitté la grande maison du service public pour une autre carrière et il l'a quitté en partie parce que quand même ça devenait un peu pénible. Bonjour Jacques Cardoz.
Bonjour, merci de m'inviter.
Dans ce livre, il y a plein de choses qui sont épatantes. Vous racontez comment notamment la rémunération de votre est calculée en fonction du degré de wokisme que vous réussissez à instiller dans les émissions. C'est un passage qui m'a enchanté. Je commence par les choses un peu par le petit bout de la lorgnette, mais ça m'a vraiment épaté. En 2018, je reçois une recommandation présentée comme un simple souhait. Ce serait bien que tu invites autant de femmes que d'hommes dans les fauteuils rouges. Ok, très bien. Quelques semaines plus tard, je découvre que ce serait bien conditionne en fait ma part variable de rémunération. Lors de mon entretien d'évaluation annuel, tout est chiffré. Parité, représentation des minorités visibles, thématique environnementale sans contradictoire, genre, orientation sexuelle, outre-mer. Chaque item donnera un pourcentage. Les objectifs sont fixés au printemps et l'argent versé l'été. Donc, autrement dit, vous aviez des objectifs éditoriaux, col des femmes, oui. Mais de la diversité. Quand on parle de climat, explique que c'est une catastrophe et évite de dire autre chose.
C'est une façon de vous demander d'orienter votre choix éditorial sans vous le dire, en fait. C'est-à-dire que c'est subtil, on vous fixe des objectifs, vous n'êtes pas obligé de les atteindre, vous n'êtes pas obligé d'aller dans le sens, mais vous comprenez quel est le sens de l'histoire, si je puis dire.
Oui, parce que la prime est coquette, en plus.
En général, c'est pas loin d'un mois de salaire supplémentaire. Alors ça, je dois dire que c'est... Et je l'explique dans le livre, c'est réservé aux décideurs, évidemment. Donc, c'est réservé aux rédacteurs en chef, aux présentateurs, enfin, tous ceux qui ont un pouvoir éditorial assez fort sur le contenu des émissions. Et en effet, alors la parité, je raconte que moi, en l'occurrence, je me l'étais fixé pour des raisons, je dirais, symboliques et que je l'avais en tête et je considérais que c'était plutôt une bonne chose. C'est vrai qu'après, si vous voulez, lorsque vous avez une part variable qui peut dépendre d'un certain nombre d'items qui sont plus contestables, alors pas sur le contenu, mais sur le fait de le traiter. C'est là où c'est subtil, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez une part variable, enfin si vous avez un pourcentage de la part variable qui peut dépendre par exemple des questions environnementales, on vous dit pas il faut dire ceci ou dire cela, c'est pas du tout, le contenu ne compte pas en réalité, mais le fait de l'avoir traité compte, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui permettra évidemment... en l'occurrence, au président ou au directeur général, ou en tous les cas à ceux qui négocient les contrats, j'expliquerai ce que c'est qu'un contrat d'objectifs et de moyens, c'est le seul contrat qui lie en réalité l'État, les ministères, avec la présidence. Donc, quelque part, c'est le seul contenu qui vous entraîne vers un choix éditorial. Eh bien, ces items que vous venez de parler... figure dans ce contrat d'objectifs et de moyens. C'est-à-dire que dans le contrat d'objectifs et de moyens, il y a la mixité, la parité, le pourcentage...
de minorités visibles.
De minorités visibles, consacrées à l'environnement, consacrées aux outre-mer, consacrées... Voilà, il y a un certain nombre d'objectifs qui sont fixés pour le groupe. Et donc le meilleur moyen pour le groupe...
Fixé par l'État.
Et donc le meilleur moyen pour le groupe de le répercuter... c'est de jouer sur la carotte et le bâton, sur la finance, et donc sur votre porte-monnaie. Alors, vous pouvez rentrer en rébellion, et d'ailleurs, moi, j'explique dans le livre que sur un certain nombre de sujets, j'ai essayé. Parce qu'on m'a beaucoup caricaturé en disant que je crachais dans la soupe ou que je m'en prenais à une entreprise que, dans laquelle j'ai travaillé et que donc, quelque part, je me désolidarisais de cette entreprise. Ce n'est pas tout à fait comme ça que les choses se sont passées. Moi, je considère qu'éditorialement, il y a eu une dérive. Il y a eu ce que j'appelle un dérèglement médiatique depuis quelques années. Et donc, à partir du moment où il y a eu ce dérèglement et qu'on a, on est moins irrévérencieux envers le... envers l'État, envers le gouvernement, on est moins piquant. Et puis surtout, il y a une vraie dérive vers une forme de gauche morale, de gauche bien pensante. Et puis, on évite de se poser les bonnes questions et on évite surtout de penser contre soi-même. Donc, lorsque l'on est le service public, on a cette exigence-là d'équité, de neutralité, de pluralité. Moi, j'estimais que dès lors que j'essayais de placer le curseur un peu plus au centre sur l'ensemble de mes émissions et donc de les équilibrer avec des thématiques qui intéressent tous les Français. Parce que c'est de ça dont il s'agit. C'est d'aborder les thématiques qui intéressent tous les Français. Eh bien, dès que j'essayais de le faire, l'équipe se cabrait. L'équipe avait du mal à accepter un certain nombre de choses. Donc, pour en venir à votre question, ça vous incline. Ça vous incline, ça vous oblige. Vous comprenez bien qu'elle est... quelle est l'orientation qui est choisie. C'est une façon, sans dire son nom, d'aller dans un sens éditorial qui, moi, ne me paraît pas honorable pour le service public, parce que le service public ne devrait pas avoir ces obligations-là et devrait pouvoir parler à tous les publics, et donc parler à tous les publics. Alors, excepté la parité, que je le dis dans le livre d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas vraiment un sujet, mais le service public devrait pouvoir s'adresser à tous les publics sans avoir besoin qu'on lui dise quel est le pourcentage, entre guillemets, de thèmes qu'il faut aborder selon que l'on veuille aborder l'environnement, les Outre-mer, ceci ou cela. C'est ce que j'ai fait, hein, d'ailleurs. C'est ce que j'ai fait. Par exemple, pour les Outre-mer, on s'était dit avec mon rédacteur en chef, traitons le chlordécone, par exemple. Donc, si vous voulez, vous essayez de faire en sorte que ce soit... que ça corresponde quand même à une actualité et que ça corresponde à une vraie nécessité au sein de l'opinion, parce que vous n'allez pas proposer un sujet...
Cette substance utilisée dans la culture des bananes et qui est réputée cancérigène.
Voilà, et qui est un scandale qui dure depuis maintenant 30 ou 40 ans, je ne sais plus très bien. Et donc, il y avait une actualité qui tombait à ce moment-là et on voulait revisiter la question du chlordécone en racontant ce qui s'était passé, pourquoi on en était arrivé là, quelle était la responsabilité de l'État, etc. Si vous voulez, vous essayez en réalité de faire du journalisme d'investigation qui puisse coller avec des idées et avec des directives qui me semblent pas tout à fait journalistiquement pures, j'ai envie de dire. Voilà.
Vous avez travaillé pendant presque 25 ans, je crois.
Oui, 27.
27, voilà, pour le service public. Quand est-ce que vous avez senti le basculement, justement, de cette inquisition ?
Alors, très clairement, à partir de... moi, j'ai passé 10 ans à l'étranger, de 2008 à 2018. 2009 à 2018, 9 ans très exactement, et lorsque 4 ans à Londres, 5 ans aux États-Unis, ce qui m'a permis, c'est un autre aspect, je ne sais pas si on l'abordera, d'avoir un autre regard aussi sur les patrons, sur la richesse, sur la réussite, parce qu'en France, on est très, en tous les cas, dans ces émissions-là, il me semble qu'on est trop souvent décliniste, triste, accusateur, etc.
Avec en même temps des salaires coquets, hein.
Oui.
Parce que là, il y a un léger paradoxe.
Absolument. Ah bah c'est le principe de la gauche morale. Ça, il faut quand même bien vivre, mais on
400
donne
400 000 euros de finir en temps.
On donne des leçons aux autres, mais on se les applique pas forcément à soi-même. C'est le principe de l'inquisition d'ailleurs. Hein. L'inquisition, on va juger, mais les inquisiteurs, eux, ne se jugent pas eux-mêmes. Hein. Bon. Et donc, pour répondre à votre question, à partir de 2016-2017, au moment où je reviens, il y a plusieurs événements qui me mettent en alerte. Le départ de ce que j'appelle les cadors dans le livre, des gens que je connais depuis longtemps, Thierry Tulier, aujourd'hui patron de TF1, David Pujadas, Guylaine Chenu et Françoise Joly à la tête de d'Envoyé Spécial, d'autres, la mort de Benoît Duquesne, ça, qui a compté aussi, qui était le créateur de Complément d'enquête. Alors là, pour le coup, personne n'y peut rien, c'est ainsi. Mais si vous voulez, il y a à la fois des départs, entre guillemets, je dirais symboliques, et puis il y a des départs qui, en fait, sont des départs qui disent beaucoup sur le journalisme. À partir du moment, moi je considère qu'à partir du moment où Thierry Tuilier s'en va, en réalité je comprends que ça va être un problème. Parce que je connais sa force, je connais sa robustesse, je connais sa capacité à s'opposer, à dialoguer. Et à la tête de l'info, vous avez besoin de quelqu'un qui garantit quelque chose pour les journalistes et garantit en même temps quelque chose pour le service public. Et je veux m'arrêter sur cette question parce que c'est très important. On dit souvent le service public, de façon caricaturale, service public, c'est la voie de l'État. C'est pas totalement faux, c'est pas totalement vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est vrai que on va rarement à l'encontre du discours du Quai d'Orsay, par exemple. Bon, si on prend cet exemple-là. Bon, en fait, comment on fait pour gérer le service public et faire en sorte que ces journalistes et les émissions d'investigation et d'information puissent être libres de faire ce qu'elles veulent? Il faut quelqu'un qui puisse parler aussi bien aux hommes politiques et quelque part un peu les engueuler, les sermonner, leur dire « bah oui, on va faire cette enquête, bah oui, ça va être un dur moment, mais en même temps, c'est dans l'actualité, je peux pas contrôler ma rédac totalement parce que j'ai une rédac de 300 personnes, etc. » Il faut pouvoir parler aux hommes politiques et leur expliquer ça, et en même temps, leur dire « mais vous aurez le droit de réponse, mais vous aurez la possibilité, on va faire des émissions politiques sur vous, etc. etc. » Et ça, c'est un art. Et je pense qu'on a beaucoup perdu avec Thierry Tullier, avec David Pujadas, qui sont des gens qui savent faire ça parfaitement, au sens où ils ont à la fois besoin des hommes politiques et du discours des hommes politiques, et puis en même temps, c'est la démocratie, c'est normal, il y a des émissions d'information et d'investigation, et quand il y a quelqu'un qui sort du champ, il y a quelqu'un qui commet des bêtises, eh ben, c'est normal que l'émission d'information et d'investigation enquête. Et donc ça, vous devez pouvoir l'expliquer tranquillement à un homme politique. Là où il y a un problème, et ça fait partie de beaucoup des points dont je parle dans Les Inquisiteurs, c'est lorsqu'il y a asymétrie de traitement. L'un des exemples les plus fameux que j'ai pris, c'est le portrait de Jordan Bardella, que j'ai d'ailleurs révélé un jour sur un plateau de télévision.
Qui est sorti programmé 5 mois avant les élections européennes.
Qui a été programmé exactement 4 mois et demi, oui, fin janvier, pour une élection qui a eu lieu début juin suivant. Mais surtout, il y a 3 points d'asymétrie, si je puis dire. Le premier, c'est que vous décidez de le faire avant une européenne et pas les autres. C'est-à-dire qu'il y a un représentant des LFI.
Oui, ça n'était pas un panel des candidats,
voilà,
qui aurait pu être de fait très intéressant.
Qui aurait pu être tout à fait acceptable. On va dire qu'on va prendre... Ils auraient pu s'en sortir en disant, pour ne pas les faire tous, parce que c'est impossible, en disant on va prendre les 3 représentants les plus importants aujourd'hui dans les sondages. Vous voyez, ils auraient pu expliquer ça avec l'accord de l'ARCOM, ça aurait pu passer. En disant, on va faire le RN, on va faire LFI, puis on va prendre un candidat du centre, en l'occurrence la candidate d'Emmanuel Macron. Bon, ils ne l'ont pas fait. Et surtout, deuxième asymétrie, il a été question de Gabriel Attal. Et même l'équipe voulait le faire, l'équipe de complément d'enquête. Le directeur de l'information a débranché cette enquête. Et ensuite, Delphine Ernotte vient devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale pour s'expliquer, parce qu'il y a une question à un moment donné d'un parlementaire au cours des rendez-vous habituels avec le Parlement, hors commission d'enquête, et à ce moment-là, elle dit, elle avance un argument et je peux vous l'expliquer, ne tient pas selon moi, elle dit on n'aurait pas eu le temps de le fabriquer. En un mot, et lorsque j'étais aux commandes, on a voulu traiter par exemple Carlos Ghosn sous la forme d'un 52 minutes, il est sorti de prison pendant Noël, si je me souviens très bien, et 3 semaines ou 1 mois après, on était à l'antenne. Si vous voulez vraiment... mettre les moyens sur une investigation, aller très fort, très loin et très vite, vous pouvez le faire. Vous mettez 4 ou 5 équipes dessus, ça coûte cher, vous avez la moitié de votre équipe de complément d'enquête, vous avez 12 permanents à peu près à complément, vous décidez de le faire et vous mettez donc 5 équipes qui chacune vont faire en gros 10 minutes de rendu antenne, vous avez votre 52, vous pouvez le faire, voire plus. Bon, donc cet argument-là ne tenait pas. Donc deuxième asymétrie, c'est-à-dire que Gabriel Attal, on l'abandonne, l'équipe de complément n'est pas d'accord, et elle avance un argument qui, selon moi, n'est pas un bon argument, puisque s'ils avaient voulu le faire, ils l'auraient fait. Et la troisième chose, c'est qu'on décide opportunément, j'ai envie de dire, et là je le dis très tranquillement, de le faire avant une élection européenne, enfin avant une élection quelle qu'elle soit. C'est pas l'usage du service public. L'usage en général, lorsque... si vous voulez, il y a un critère très simple. Quand vous approchez d'une élection, vous ne faites pas un portrait à charge contre l'un de ceux qui va se présenter ou qui compte dans le paysage politique. Ou alors, ce qui a été par exemple le cas de François Fillon pour le canard enchaîné, ou alors vous détenez l'arme atomique. C'est-à-dire que vous avez une information nouvelle qui ne se discute pas et qui justifie d'aller à l'antenne avec, avec un magazine d'info.
Ouais, mais le canard enchaîné, en plus, c'est un canard privé.
C'est pour bien expliquer quelle est, à la limite, si vous voulez, l'argument qui pourrait vous conduire à effectivement faire une enquête sur un des candidats juste avant une élection. Mais voilà 3 raisons. Qui font que jamais cette enquête n'aurait dû être programmée. Elle aurait très bien pu être programmée juste après les européennes, courant juin, enfin, je veux dire, ou à la rentrée suivante, peu importe. Il n'y avait pas d'éléments en plus dans cette enquête qui permettait de dire on apprend quelque chose de réellement nouveau.
Oui, il n'y avait pas de croustillant.
Il n'y avait rien de croustillant, ceux qui connaissaient sa vie, etc. Alors après, très bien, vous avez un certain nombre de gens qui vont dire « Ah oui, mais moi, je ne connaissais pas, ça permet de connaître. » Oui, d'accord, mais si c'est juste ça, la promesse d'enquête, alors dans ce cas-là, vous devez impérativement faire en sorte qu'il y ait des portraits sur les autres. Et là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur Thierry Tulier et David Pujadas, ou Jean-Luc Manot, ou Arlette Chabot, ou tous ceux que j'ai connus auparavant, ou même Olivier Mazerolle. Eh bien, tous ces gens-là n'auraient jamais laissé faire quelque chose comme ça. Donc, pour répondre à votre question...
C'est ce basculement-là
voilà,
que vous avez...
Voilà, ce basculement, je l'observe au fil de l'eau, à partir de 2016, 2017, 2018. Et je raconte un autre épisode, c'est que, et là, c'est directement lié à ma nomination, au fait que Élise Lucet... est à la tête de deux émissions, Cache Investigation et Élise Lucet, et pardon, Cache Investigation et Envoyé Spécial, et c'est pas rien, parce qu'elle est une personnalité forte. Donc à partir du moment où vous la nommez à deux émissions, ça signifie quelque chose. Vous avez un choix éditorial fort. Et à ce moment-là, moi, quand on me propose complément, on me dit, tu comprends, ils veulent faire tomber la République tous les jeudis, il va falloir faire en sorte que... on équilibre un petit peu tout ça, quoi. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est pas une phrase, je l'explique, hein, c'est pas une phrase de censure, c'est pas une phrase de prévention, c'est pas ça. C'est exactement dans la lignée de ce que je viens de vous dire au sujet de Tulier, Pujadas, etc. C'est qu'il faut savoir le faire, il faut savoir équilibrer, il faut pas... En fait, il faut donner le sentiment, réel ou supposé, mais en réalité indiscutable d'un point de vue journalistique, que vous n'êtes pas d'un bord plutôt que d'un autre. C'est simple comme bonjour, en réalité. C'est ça. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est qu'on a lâché les chevaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pardon, mais quand je regarde le programme de Cache Investigation, à 70%, j'ai le sentiment que c'est l'anti-richesse, c'est l'anti-multinational, c'est l'anti-patron, c'est l'anti-réussite.
C'est l'anti-national.
C'est l'anti-national, exactement, anti-patriotisme. Et donc, si on fait l'addition de tout ça, on n'a plus une émission politique, une émission, par oui, je fais le lapsus moi-même, on n'a plus une émission journalistique.
D'enquête.
On a une émission qui devient politique.
On a une émission partisane. Mmh. On a un choix partisan.
D'autant plus partisan que, par exemple, vous avez dit LFI tout à l'heure, mais justement, LFI pas touche. Je me souviens d'avoir entendu une journaliste dire qu'il n'était pas question de réaliser un complément d'enquête sur la France insoumise, car certains de ses membres fournissaient des dossiers pour l'émission. Il était donc impossible d'aller à l'encontre des intérêts de la rédaction.
Touche
pas à mon dealer.
C'est exactement l'argument qu'on m'a sorti, que je peux un peu plus expliciter ici si vous le souhaitez.
Mais oui.
Je souhaitais depuis plusieurs semaines une enquête vraiment serrée, vraiment très investigué sur Jean-Luc Mélenchon, ses idées politiques, sa façon de faire, son entourage, tout ce qu'on peut avoir. Enfin, je veux dire, vous voyez, on vient de citer Jordan Bardella. J'aurais voulu avoir la même chose dès 2018 concernant Jean-Luc Mélenchon. Et je pense, compte tenu des âges, qu'il y avait beaucoup plus à dire sur Jean-Luc Mélenchon, son parcours.
D'autant que son parcours est... objectivement intéressant.
Passionnant, l'Amérique du Sud, les liens avec le Venezuela, avec le régime castriste, etc. Enfin, je veux dire, il y a à la fois une dimension politique qui vient de loin, sa relation en France avec le Parti Socialiste, le Parti Radical, ses départs, ses rancœurs, le fameux congrès du Parti Socialiste qui se passe mal. Enfin, il y a plein de choses à raconter. Il y a plein de, comme on dit, il y a plein de pistes d'enquête en réalité. À mon avis, il y en a au moins de quoi en faire deux ou trois des compléments d'enquête sur lui. Et surtout, pour que vos auditeurs se voient bien la situation dans laquelle on est à ce moment-là et au moment où je le dis, c'est que c'est le moment où il dit « la République, c'est moi ». Donc, je ne le dis pas comme ça au milieu du désert, si vous voulez. Donc, et j'y reviens semaine après semaine. Et à un moment donné, il y en a une, parce qu'en fait, les conférences de rédac, vous avez... on était 12, plus les assistants, etc. Enfin, vous aviez une quinzaine de personnes qui assistaient à ces conférences de rédac à l'époque où j'y étais. Et compte tenu des tournages, des montages, en général, à peu près la moitié était là, 6 ou 7. Et il y en a eu une journaliste pour qui j'ai d'ailleurs énormément d'estime, parce qu'elle travaille très très bien, qui me dit, écoute Jack, non, c'est pas possible, on est en train de, là LFI nous file des dossiers, je suis sur tel sujet, qui était directement lié à des dossiers qui étaient susceptibles d'être fournis à l'émission, des éléments, etc. Et là, en fait, il faut expliquer. C'est-à-dire que c'est à elle, à ce moment-là, de gérer ça. C'est pas à moi de le gérer. C'est à elle de dire, y a ça qui est dans les tuyaux, sache-le, mets-le dans un coin de ta tête, mais moi, je continue mon enquête. Et c'est là, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si vous n'avez pas les épaules, si vous n'avez pas la capacité à pouvoir affronter ça, bah, il se passe ce genre de catastrophe. Donc, là-dessus, j'ai lâché. J'aurais pu ne pas lâcher, c'est vrai, je le reconnais, mais j'ai lâché l'affaire.
On vous accuse pas, Jacques. Hein,
Non, mais parce que c'est dans ce livre, et je l'explique, et je veux pas, si vous voulez, je veux pas passer à côté de ça.
Je voudrais parler du sujet, mais un peu autrement, parce que LFI, c'est un symptôme. Oui. Mais vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui était tout à fait vrai. Vous aviez envie, en fait, de parler des sujets qui intéressent les Français.
Tout à fait.
Et donc, par exemple, vous sortez un sujet sur les pièces détachées d'électroménager.
Oui.
Alors, sujet passionnant, vous en parlez évidemment à votre boss de l'époque, Michel Field, gauchiste d'élite, conscience morale, un type épatant.
Me permettre, là, on est dans un cadre un petit peu différent. Je raconte qu'en fait, c'est le sujet qu'il a pris, lui, comme exemple, comme étant le sujet qui justifiait le départ de Guylaine Chenu et Françoise Joly dans Envoyé spécial.
Voilà, mais parce que, donc, c'est un sujet nul selon lui. Et je vous cite, on y voit un certain mépris de cette direction de la télévision publique pour les Français. Oui, Michel Field, les pièces détachées, c'est un sujet essentiel quand on gagne 2000 euros par mois, si on prend en compte le salaire médian en France. Et la bagnole, comme la machine à laver, ça coûte cher. C'est sûr que lorsqu'on perçoit 12 000 euros par mois garantis jusqu'à 70 ans, eh ben, la question de la machine à laver, on s'en fout. Et donc, il y a ce sujet-là. Et là, vous comprenez qu'en fait, on n'est pas là pour parler des sujets qui fâchent. On n'est pas là pour parler des sujets intéressants qui intéressent tout le monde. Et vous listez d'ailleurs tous les sujets. Vous proposez de parler de l'islamisme et de l'entrisme islamique en France. Vous proposez de parler du problème des banlieues. Vous proposez de parler des élections un peu hachetées. Et donc, en gros, vous proposez de parler véritablement et de la vie politique et de la vie économique. Et à chaque fois, on vous dit, ça pue, c'est de droite. Attends, Jacques, t'es pas de droite?
On me dit bien d'autres choses. On me dit, ça, c'est une enquête exclusive. On me dit, ça va faire monter le vote RN. Je m'amuse avec ça dans le livre. Je dis, on vous reprochera jamais de faire monter le vote LFI. Voyez, on me dit, mais prouve que la rédaction de France Télévisions est plutôt à gauche. Bah, voilà un exemple très clair. Mais je peux vous en lister, on peut rester 2 heures à l'antenne, je vais vous lister et vous allez comprendre. C'est ce que j'ai essayé de faire dans ce livre parce que la seule réponse jusqu'à présent officielle de France Télévisions à tout ce que j'ai pu dire, ça a été lors de la commission d'enquête. Vous savez, ils ont fourni un document de 130 ou 140 pages et ils ont dit, ils n'ont pas attaqué le fond, mais ils ont dit non, mais il n'y a rien de significatif, ce sont quelques exemples dont parle Jacques Cardoz. Et c'est pour ça que je me suis dit, il va falloir que j'en donne beaucoup des exemples. Donc, rentrons dans le sujet.
Le livre en est bourré.
Voilà. Et donc, rentrons dans le sujet. Effectivement, à la même période, je propose une enquête sur le communautarisme. Il se trouve qu'il y a, et ça m'aide beaucoup, il y a une proposition de loi à ce moment-là. Je crois qu'on est sous le gouvernement d'Édouard Philippe. Et cette proposition de loi, elle va arriver quelques mois plus tard. Et c'est très important parce que dans une rédac, ça va me permettre, même si je sais que j'ai des vents contraires, on est 13, j'ai 2-3 alliés, si vous voulez. Mais j'en ai pas plus que ça. Si j'ai 10 alliés, c'est beaucoup plus facile d'y aller parce que ça se discute pas. Et c'est même pas 6 contre 6, si vous voulez. C'est que sur ces sujets-là, ça se braque et ça se braque majoritairement. Et donc le communautarisme, après avoir essuyé l'échec Mélenchon, j'y vais. Je me dis, je m'en fiche, j'y vais à fond. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a un rédacteur en chef adjoint. Vous avez un complément, un big chef et puis 2 adjoints. Et j'ai un de mes adjoints qui se désolidarise, qui me dit, c'est l'émission de facho, je ne la ferai pas. Je me désolidarise. Alors qu'on a besoin de son travail, de son expertise, d'encadrer les reporters, le suivi des enquêtes, qu'est-ce qu'il y a dans les enquêtes, où on va, quelles sont les pistes, etc. C'est son travail. Bon, il se désolidarise. Je veux dire, pour des raisons éditoriales, qui sont indiscutables. C'est un vrai scandale. C'est un scandale que ça se passe comme ça dans le service public. Deuxième épisode, une journaliste qui se trouve être une journaliste musulmane me dit « Je peux pas. Je peux pas aller sur ce terrain-là. » Très bien, j'ai pas envie de polémique, j'ai pas envie de problème. Soit, très bien. C'est quelqu'un d'autre, également de très bonne qualité, qui fera l'enquête et on finira par faire cette enquête. Jusqu'au bout, j'aurai des difficultés. À un moment donné, au moment de la rédaction du communiqué de presse, je le raconte dans le livre, on essaie d'enlever le mot islam, on essaie d'enlever le mot voile, Vous voyez ce que je veux dire? Ça va jusque-là. Donc, et ça, c'est un exemple, communautarisme. Mais après, vous savez, je pourrais lister le rapport de ces 3 émissions-là à l'immigration. Si vous regardez bien, ces 10 dernières années, vous avez dans le secteur de l'immigration le traitement qui est un petit peu toujours identique en matière d'immigration pour ce qui est d'envoyé spécial. C'est systématiquement la question de l'accueil des réfugiés. Je ne dis pas que ce n'est pas une vraie question. C'est une vraie question. Mais quand ça devient 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois le même angle et que dans le même temps, vous ne faites pas le regroupement familial, essayez de trouver une enquête sur le regroupement familial sur ces émissions-là. Dans ces émissions-là, moi, je n'en ai pas vu. Alors, je ne sais pas s'ils l'ont faite, ils l'ont bien cachée. Moi, je ne l'ai pas vu. Il y en a une sur les OQTF. Ah, c'est intéressant de voir comment ils l'ont traité, les OQTF. Les OQTF, ils n'ont pas traité le sujet. Ils ont traité comment les partis politiques récupèrent les OQTF. Et bientôt, on va avoir comment les médias récupèrent les OQTF. Non, mais enfin, je veux dire...
Ce qui est déjà un petit peu le cas.
Oui.
Enfin, ce sont déjà des attaques qui se font dans certains médias...
Comment les médias bolloréens...
Voilà, je cherchais... voilà, comment les médias bolloréens récupèrent ces questions-là. C'est déjà un sujet, en fait.
Mais ce que je veux dire, c'est que l'a priori, si vous voulez, le présupposé, c'est déjà sur l'immigration de faire un choix qui consiste à occulter une partie de la problématique, parce que c'est une problématique d'ensemble, et qui consiste à ne parler que de l'accueil. C'est, à mon sens, déjà un choix. La seule fois où ils vont faire l'immigration dans Cache Investigation, donc Cache Investigation, il faut aussi comprendre qu'à partir du moment où vous avez 90 minutes, il y a plus de moyens donnés à la société de production. Et vous avez un temps d'enquête de entre 12 et 18 mois. Donc si vous avez un temps d'enquête de 18 mois, vous avez une capacité à aller chercher des choses qui sont beaucoup plus insolites.
Et parce que normalement, vos magazines à vous, c'était 3 mois d'enquête.
Oui, c'est entre... Alors, ça dépend, c'est très variable. Celui de Jordan Bardella, ils ont mis un an à le faire.
Oui.
Cyril Hanouna, ils ont mis un an à le faire.
Mais normalement, vous dites, voilà,
oui,
52 minutes, 3
voilà,
mois.
3, voilà, 3-4 mois, normalement,
c'est... Un mois d'enquête, un mois de tournage, un mois de montage.
Voilà, à peu près. Bon. C'est intéressant de parler du cache investigation sur l'immigration parce que ce cache-là, il ne parle que de ce qu'apporte l'immigration en matière de main-d'œuvre pour l'hôtellerie, pour les secteurs du bâtiment, la restauration, etc. etc. Donc, on va dans le sens, en réalité, du discours d'une partie du patronat, etc. Mais le corollaire, c'est tout le reste. On ne parle pas du coût. On ne parle pas des conséquences sur la violence, précisément les OQTF, etc., etc. Enfin, je veux dire, on ne fait pas un spectral, en réalité. On choisit un seul angle très particulier qui va donner le sentiment aux téléspectateurs que le narratif, c'est l'immigration, c'est bien pour le pays, et voilà, je vais vous le prouver par A plus B. C'est un choix, à la base. C'est déjà un choix, et à mon avis, c'est un choix qui n'est pas équitable, et ça fait partie de la charte des journalistes, surtout dans le service public, et donc l'honnêteté aurait voulu ou voudrait qu'on ait également le pendant, qu'il y ait également une enquête sur, j'en sais rien, moi... Je ne sais pas comment il faut la formuler, mais si vous voulez, le coût de l'immigration, qui est quelque chose qui est très difficilement palpable. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait une émission d'information de service public qui s'attaque d'investigation. Hein. Ce n'est pas un regard d'auteur, hein. Pas un discours sur, dans une émission de débat, c'est autre chose. L'exigence n'est pas la même. Qui porte sur le coût, très exactement. Voilà, parce que les chiffres circulent, parce qu'il y a des batailles d'historiens, de spécialistes, voilà. Et donc, c'est en ce sens que je considère qu'il y a une forme d'asymétrie de traitement.
Cette asymétrie de traitement, elle se double, notamment avec l'arrivée d'Élise Lucet, et la starification d'Élise Lucet, d'une autre manière de monter ces magazines. D'abord, le choix d'un certain sensationnalisme, la volonté de se transformer en tribunal, et c'est ce que vous appelez à un moment donné l'inquisition-accusation. Voilà. Et après, on parlera aussi de... donc, il y a le reportage d'investigation, le reportage d'inquisition-accusation, il y a le reportage d'insinuation, et donc, à chaque fois, bon, c'est des procès d'intention qui sont faits. Et j'aime bien la formule pour l'inquisition-accusation. Je te poursuis partout et j'irai emmerder tous tes proches, et de toute façon, on fera le portrait quoi qu'il arrive, parce que ça coûte cher, et comme ça, tu es obligé de répondre, et en plus, on se moquera de toi. Et donc, on dit, waouh, effectivement, ça, c'est de la vraie neutralité déontologique.
Alors, en fait, lorsque vous abordez une enquête et que vous décidez de l'aborder sans qu'il y ait d'éléments probants, mais que vous le décidez déjà sans éléments probants, moi, ça me semble ne pas être journalistiquement acceptable. C'est-à-dire que si je décide demain de faire une enquête sur X, Monsieur X, propriétaire de je ne sais quoi à la tête d'une multinationale, Je le décide si il y a une enquête judiciaire, s'il y a des éléments qui sont sortis dans la presse, s'il y a une partie du salarié qui râle. Si vous avez, voilà, je pars d'éléments probants. Et ce que je raconte à ce moment-là, c'est que je pense qu'on a perdu cette notion-là, pareil, au fil de l'eau, ces 7 ou 8 dernières années, et on l'a perdue parce que on fait des choix qui ne dépendent pas de ce que vous avez, mais qui consistent à aller chercher et à venir nourrir une idée que vous avez. Et l'idée étant proche de, finalement, d'une opinion. J'ai envie de m'attaquer, tiens, j'en sais rien, prenons l'exemple de L'Oréal. Ils ont fait L'Oréal récemment, j'en parle dans le livre. On fait L'Oréal, tiens, on fait L'Oréal. Qu'est-ce qui préside à ce choix, en fait? J'aimerais bien savoir ce qui préside à ce choix au départ. Parce que moi, je ne vois rien d'absolument incroyable dans cette enquête. Ils passent 45 minutes à essayer de nous expliquer que certains produits posent problème. Et puis finalement, ce qui est le plus convaincant, c'est une gestion sociale dans les 20 ou 30 dernières minutes du magazine. Donc en réalité, le sujet, journalistiquement, il porte que sur la question sociale, en fait. Donc en fait, tout le reste, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, cette idée que je vais m'attaquer à un sujet parce que j'ai envie de m'attaquer à L'Oréal, tiens, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait une multinationale, tiens, bah L'Oréal, c'est un des plus grands groupes français, donc je vais le faire, et je vais essayer de trouver des éléments. Et en plus, j'ai un budget de 300 ou 400 000 euros par an pour pouvoir le faire. Donc, je vais pouvoir multiplier les pistes d'enquête. Et au final, bah, il y a deux produits qui peuvent éventuellement poser problème, et encore, je raconte dans le détail que la façon de faire n'est pas très bonne, pas très équitable, que tout est fragile et contestable. Et puis, est-ce que c'est évocateur, deux crèmes qui posent problème sur des centaines et des centaines de marques? C'est un exemple, si vous voulez, de cette idée qu'on va régler ses comptes, et on le fait sans éléments probants au départ, mais on se dit qu'on va essayer d'en trouver au fil de l'eau dans le cadre de l'enquête. C'est le contraire, en réalité, d'une enquête journalistique, à mon sens.
Est-ce que la réalité de ce qui se passe en France est forcément perçue au sein du service public comme du fascisme ou la pensée de l'extrême droite? Si demain, par exemple, un candidat du Rassemblement national venait à dire que en Lozère, par exemple, il y a de véritables déserts médicaux, qu'il n'y a plus de maternité, c'est une réalité, c'est un constat. Des femmes, dans certains départements de France, doivent faire 45 ouais. minutes de route pour pouvoir accoucher. Si un candidat du Rassemblement national vient à dire ça, est-ce que le service public se sent obligé de dire « on ne peut pas traiter ce sujet-là, c'est forcément du fascisme, c'est forcément de l'extrême droite »
Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que si une bonne idée vient une révélation, on va dire, ou une information nouvelle qu'on n'avait pas vue, qui était un peu sous les radars et qui est portée par quelqu'un du Rassemblement national, je pense que ils vont essayer de la formuler autrement, si vous voulez. Ils vont essayer de ne pas forcément la mettre dans la bouche de celui qui porte l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a toujours l'idée de ne pas, entre guillemets, servir les intérêts d'eux. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la prévention, on ne l'a pas pour le PS, grosso modo pour tous les autres partis. Mais dès lors qu'il s'agit du RN, il y a un frein. Il y a un frein très, très clair. Moi, j'ai entendu, à propos de Jordan Bardella, j'ai entendu le rédacteur en chef, je l'ai déjà révélé, cette fameuse phrase, celle-là, je n'ai pas le droit de la rater. Bon, parce qu'il y a un présupposé, parce que c'est le RN. Voilà, donc si vous voulez, vous extrapolez ça sur tout un tas de choix. Donc dès l'instant... faut pas voir les choses comme une censure. C'est-à-dire que je pense que si demain, un candidat RN dit quelque chose qui est une réalité et qui n'a pas été vu, qui n'est pas sous les radars, ils vont essayer de le traiter, probablement. En tous les cas, ils vont s'y intéresser, ils vont vérifier. Mais ils vont tout faire quelque part pour que ce ne soit pas réellement au bénéfice électoral et politique du RN. Ça, j'en ai la conviction. C'est une conviction qui se fonde sur des échanges, des observations, 30 ans d'expérience. Je rappelle quand même aux auditeurs que j'ai passé 27 ans à France Télévisions, que j'ai été très heureux dans cette entreprise, que j'ai considéré durant mes 24 années qu'on faisait très bien notre travail. Lorsque je suis revenu des États-Unis en 2018 et de mon expérience de correspondant, j'ai considéré à complément d'enquête qu'on avait reculé. On avait reculé en matière d'ouverture d'esprit, de capacité de se critiquer, de se mettre en question, d'aller contre soi-même. C'est pas un problème d'être de gauche, de droite, enfin je veux dire... peu importe, c'est pas l'idée en réalité.
Ça ne devrait pas être le sujet.
Ça ne devrait
justement.
Pas. C'est justement, on devrait jamais avoir à en parler, et on commence de plus en plus à en parler dans les rédactions. C'est un vrai sujet, et c'est un vrai sujet, je pense aussi, à regarder par rapport aux élections de 2027. Et c'est là où je pense que mon livre devient, si je puis dire, j'essaie de le vendre, encore plus intéressant.
Mais il est très intéressant.
Merci. <Voilà. rire> Merci Richard. Mais,
je rappelle Jacques Cardoz, Les Inquisiteurs. Voilà. Mais sur le service public.
Voilà. Mais en plus, si vous voulez, il y a une forme de divorce entre le rôle du service public et l'opinion, parce que l'opinion a changé. Et qu'on doit tenir compte du fait que vous avez un tiers LFI, un tiers Bloc Central et un tiers RN, et que peut-être que le paysage politique va encore évoluer dans les mois et les années à venir. Ça peut, on ne peut pas faire comme si le RN n'existait pas. Enfin, je veux dire, c'est totalement délirant pour moi.
Et là, au-delà du parti politique, dire ça,
moi, me fait passer directement pour un facho.
Oui.
D'abord parce que un certain nombre de thèmes que j'ai défendus au nom du pluralisme, au nom de l'équité, au nom de l'idée et de l'opinion que je me fais de ce métier, ça m'a valu, c'est l'émission de facho, t'as qu'à aller à M6 chez De la Villardière pour le faire, ça va faire l'émission sur les violences gratuites, ça va faire monter le vote RN. Voilà, donc je prends une multitude d'exemples sur l'immigration, non, terrain glissant, ouais, c'est l'une des expressions ça, terrain glissant, non, terrain glissant, oulala, attention, tu vires mal, fais attention à toi. Voilà, je peux en citer 15 façons de dire, de vous mettre un peu mal à l'aise, si vous voulez. Donc, ça fait partie du jeu. Voilà. Ce qui signifie quoi? Ça signifie que la carte politique, l'opinion politique, est en train de rentrer en conflit avec la carte de presse. Ça me gêne beaucoup, parce que c'est pas l'idée que je me fais du service public.
Alors, dans ce livre, vous parlez justement du service public, de votre expérience. Vous avez commencé comme journaliste de terrain. Vous êtes allé au Liban en pleine guerre. Enfin, autrement dit, voilà, vous ne vous êtes pas contenté des rédactions parisiennes et de peser avec des poils de mouche.
J'étais même vraiment considéré comme un journaliste de terrain. D'ailleurs, au moment où ils m'ont nommé à la tête de complément d'enquête en 2017, ça a étonné certains. Et le choix du patron de l'info, Yannick Tranchant, à ce moment-là, c'est de dire: Tu es un de nos meilleurs éléments en termes de reportage, et on veut donner ce signal aux téléspectateurs. Voilà, c'est un homme de terrain qui devient présentateur.
Et donc, qui vous assure que les reportages de magazines seront aussi efficaces que. Ça se passe mal, vous le racontez dans ce livre, pour toutes les raisons que vous avez déjà dites. Voilà, la difficulté avec les équipes, la difficulté avec la grande direction, ces orientations de plus en plus idéologiques qu'on essaie de donner à votre travail, le poids prépondérant d'Élise Lucet qui, entre Cache Investigation et Envoyé Spécial et Complément d'Enquête, donc qui est souvent rangé sous votre houlette, finit par avoir un poids dans le magazine trop important et impose aussi un style.
Un poids culturel.
Voilà, vous finissez par partir. Pourquoi sortir ce livre en 2026, étant donné que ça fait quand même quelques années que vous avez quitté le service public?
Parce que la première fois que j'en parle, c'est en 2023. Je suis parti en 2021. Lorsque je suis parti, je me suis dit dans un premier temps, il ne faut pas injurier l'avenir. Je dis rien. Je garde tout pour moi.
Il faut partir en bon terme.
Il faut partir en bon terme. Et je pars d'autant plus en bon terme que je refuse de signer un protocole d'accord confidentiel. C'est-à-dire que je refuse en fait quelque part, pardon de le dire comme ça, hein, mais qu'on achète ce que j'ai à dire, et donc que contre rémunération. Bon, quelque chose qui se fait de façon assez commune dans beaucoup d'entreprises. Bon, moi je refuse ça, je pars dans le cadre d'un plan de départ volontaire qui permet une chose, c'est que le plan de départ volontaire, vous ne passez pas par vos directeurs et vos responsables, vous n'en parlez à personne, vous passez par une société privée qui est mandatée, parce que tout ça est très codifié. Et en passant par cette société, en réalité, vous ne mettez personne dans la confidence. Et j'ai voulu le faire parce que je ne voulais pas qu'on me convainque de l'inverse. C'est-à-dire que je ne voulais pas qu'on me convainque de rester, si vous voulez. Parce que c'était un acte fort. Je renonce à rester jusqu'à 70 ans avec un très bon salaire. Voilà, les salaires moyens, je le dis dans le livre, c'est 80-90 000 euros par an. Ça ne court pas non plus les rues. Je renonce à ça, je renonce aux avantages, je renonce à une certaine aura, le bénéfice de tout cela.
40 jours de congé de début de carrière, 20 jours de repos supplémentaires qui peuvent attendre 50 jours de congé après plusieurs années d'ancienneté. Ouais, ça fait envie quand même.
Et puis tout le reste. Vous faites partie d'une certaine... une certaine caste. Voilà, vous faites partie d'une certaine caste. Voilà. Donc je sais que je renonce à tout ça. Mais je veux m'ouvrir à... Alors, moitié-moitié, pour être très honnête, moitié des horizons professionnels différents, parce que je me dis, je veux découvrir autre chose, je ne veux pas passer ma vie dans le service public, je ne veux pas, entre guillemets, finir ma vie professionnelle dans le service public. Je ne voulais pas ça, j'avais une très mauvaise idée de ça. Et puis, parce que je suis profondément déçu par la tournure des événements, les choix éditoriaux, je ne sais pas comment les choses vont évoluer, et j'ai envie de tourner le dos à tout ça. Donc, pour répondre directement à votre question, on est en 21, je me dis, je garde tout ça pour moi, je vais vivre une expérience qui n'a absolument aucun rapport, mais qui dit beaucoup dans le football. Pourquoi je pars dans le football comme ouais. dire d'un club de foot ? Parce que je suis dégoûté, je suis écœuré. Et je le dis à mon patron de l'info. C'est-à-dire que à ce moment-là, Laurent Guimier, je lui dis je suis écœuré par ce métier, j'ai plus envie. Quoi. Voilà. C'est-à-dire que tout ça, ça a été des freins, ça a été compliqué, etc. Je comprends, nanani, nanana, tu veux pas attendre, je pourrais peut-être te débloquer une émission, on parle de toi pour un autre poste, etc. Et en réalité, je veux plus faire partie de cet esprit un peu étriqué, enfermé. Certains souffrent à France Télévisions. Je ne suis pas le seul, en réalité, à dire ça.
Attends,
là, je parle.
Complément d'enquête mais sur bien les salariés sûr, non, mais de France Télévisions.
Peut-être, ouais. Je parle au nom d'un certain nombre de journalistes. Si vous croyez qu'ils ont tous le choix, moi, j'ai eu le choix de partir, mais il y en a beaucoup qui se la ferment, qui subissent et qui ne sont pas du tout d'accord. Bon, et donc, on est en 21. Je pars, je fais mon expérience dans le foot. J'ai un entretien avec Delphine Ernotte, la présidente de France Télé, et qui me dit on reparlera de tout ça après votre expérience dans le football, vous revenez me voir, etc. Et en 23, en réalité, bon, je passe là-dessus, les choses ne se font pas, j'ai quelques contacts avec France Télé, mais je sens que ça ne va pas se faire, si vous voulez, et puis que ça ne m'intéresse pas tellement au fond, que la lourdeur est encore là, enfin bon, tous les défauts que j'ai décrits. Et de fil en aiguille, je fais la rencontre de Cyril Hanouna et je vais dans son émission où je reste en quotidienne pendant un an. Et surtout, il me fait la promesse d'un certain nombre de magazines d'information et on va créer, d'une certaine façon, un contre-complément d'enquête. Et là, ça m'amuse énormément. Et donc, là, je me dis, c'est le moment. C'est le moment de dire les choses. Et en 23, je révèle la fameuse phrase sur le complément d'enquête de Bardella. Je parle pour la première fois de Mélenchon, du communautarisme. Donc, je donne 2-3 exemples. Mais dans un contexte qui est un contexte très différent. C'est une émission d'entertainment. Voilà. Donc, si vous voulez, c'était un endroit qui était attaquable pour le service public. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Je suis à ce moment-là vilipendé par la presse. Télérama fait 2 papiers pour moi. Le Parisien fait un papier dégueulasse. Enfin, je veux dire, ils s'y mettent tous après m'avoir adulé pendant 27 ans. Tout à coup, parce que j'aimais... C'est le principe de l'Inquisition. À partir du moment où vous émettez un avis contraire, bim, vous êtes devenu un ennemi. Et donc, à ce moment-là, ça y est, il lâche les chevaux, il ferme les vannes. Je ne suis plus en contact officiel avec... C'est pas seulement France Télé. France Télé, c'est France 2, France 3, France 4, France 5, France Info, France 24. Mais c'est aussi des relations avec des proxys, c'est-à-dire Public Sénat, la chaîne parlementaire, les boîtes de prod qui travaillent pour, etc., etc. Donc, si vous voulez, c'est tout ce pan-là de l'activité médiatique qui se ferme à moi. Il faut
considérer que vous êtes radioactif.
Voilà, je suis radioactif. Exactement, c'est le terme qui est utilisé, d'ailleurs, un jour par un tweet de Jean-Michel Apathy. Donc, c'est pour vous dire. Vous ne pouvez pas dire mieux. Donc, je suis radioactif.
Je suis très content d'être cité, voilà. D'avoir cité Jean-Michel Apathy. Jean-Michel, si tu nous écoutes.
En réalité, on me dit, tu ne te rends pas compte à quel point Cyril Hanouna est radioactif. Et voilà. Et donc, du coup, de fait, je le deviens également. Et puis, il y a eu la commission d'enquête. Et donc, je mets tout ça de côté. J'avais écrit aussi une partie du livre à l'époque pour ne pas perdre mes idées. Et ensuite, il y a la commission d'enquête en 25-26. Et là, la commission d'enquête de Charles Laloncle, elle fait pour moi un travail énorme parce qu'elle met les Français au niveau, à un certain niveau, mais elle rattrape le retard. Et elle met au niveau de tout ce qui a été mis sur le côté, considéré comme étant accessoire, considéré comme étant de la tuyauterie, des affaires médiatiques qui n'intéresseront pas les Français, etc. À force d'avoir mis tout ça sous le boisseau pendant 10 ans, 15 ans, il n'y avait pas eu de commission d'enquête, je crois, depuis 15 ans. Enfin, c'est un truc complètement dingue. Ben, en réalité, Charles Laloncle, il déterre forcément tout un tas de dossiers. Donc, quand je vois jour après jour le travail de Charles Laloncle et que je vois son impact dans les réseaux sociaux, énorme. Et je pense qu'il aurait pu faire 2 ans, il aurait eu autant de succès, si vous voulez. Enfin, je veux dire, il y avait encore beaucoup à dire. Eh bien, là, je me dis, maintenant, l'opinion est sensible. L'opinion est prête à entendre ce que j'ai à dire. Et donc, c'est pour ça qu'à ce moment-là, je me sens conforté, plutôt en une formule que d'être une sorte de lanceur d'alerte dans le désert. Je deviens un acteur d'un discours et d'une enquête qui commence à se faire jour. Et donc, je me dis, c'est le moment. Et puis, il y a l'enjeu de 2027. Je veux dire, l'enjeu de 2027, c'est peut-être un paysage politique totalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Donc, les questions, il faut se les poser maintenant, parce qu'il faut que le débat ait lieu. C'est très important. Je veux dire, de deux choses l'une. Soit on considère qu'il y a des partis qui sont interdits, et donc dans ce cas-là, si vous voulez, ils sont interdits pour tout le monde. Soit on considère qu'ils font partie de l'espace démocratique, et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi le service public ne s'adresserait pas au thème défendu par ces partis-là de la même façon que pour les autres. D'autant que, si on prend les exemples de l'immigration ou de l'insécurité, qui sont des thèmes forts pour le RN, pardon, mais moi j'ai vécu 10 ans à l'étranger, aux États-Unis et en Grande-Bretagne, c'est pas des thèmes partisans, sont des thèmes transpartisans. Si vous croyez que Barack Obama, bien sûr, si vous croyez que Barack Obama aurait pu être élu sans parler d'immigration ou d'insécurité, vous mettez le doigt dans l'œil. C'est la même chose pour Keir Starmer en Grande-Bretagne qui vient là de quitter le gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est fou de voir qu'il n'y a qu'en France où en fait ces questions-là sont traitées avec du bout des lèvres par une certaine gauche morale et que le service public, finalement, soit dans la même lignée. C'est ça le problème. Que la gauche morale ou que le Parti Socialiste ait des préventions vis-à-vis d'un certain nombre de thématiques fortes pour l'opinion, c'est son problème électoral, j'ai envie de dire. C'est eux qui en définissent la stratégie. Ça ne devrait pas nous regarder en tant que journalistes, surtout pas du service public. Eh bien, que dans le service public, on épouse les mêmes codes, les mêmes freins, qu'on se cabre de la même façon dès lors que face à nous, il y a ces mêmes thématiques et qu'on les renvoie d'un revers de main en disant « ça fera voter le RN, donc je ne veux pas le traiter », non, je suis désolé, vous devenez militants, les gars. Vous devenez militants, vous n'êtes plus des journalistes de service public. Voilà pourquoi j'ai mis du temps à écrire ce livre. J'ai mis 5 ans à l'écrire parce que j'avais mis de côté un certain nombre d'idées. Je gardais tout ça en moi, mais j'ai aussi une personnalité, je pense, assez forte, un peu grande gueule. Et donc, lorsque j'ai senti que l'occasion était là, et c'est la commission d'enquête qui a été absolument déterminante, je me suis dit « il faut le faire ». Voilà, il faut sortir les infos.
Quelle a été la perception de vos anciens collègues? Est-ce que certains vous ont fait des retours sur l'apparition de votre livre?
Mes anciens collègues...
Le fait que ce soit chez Fayard, déjà, est-ce que ça a été un sujet?
Alors, mes anciens collègues, je vais vous faire un aveu, je fais tout pour les protéger. Parce qu'en 2023, lorsque j'ai commencé à parler, il y a eu une chasse à l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, à un très haut niveau de la présidence de France Télévisions, on a appelé un certain nombre de mes amis ou anciens collègues pour leur demander de raconter des saletés sur moi et d'essayer de déterrer des dossiers. On est allé à la RH pour essayer de chercher les sujets. Enfin, on a tout visité. On a même demandé à un ancien militant du Parti Socialiste qui a travaillé au cabinet de Martine Aubry, qui est aujourd'hui déclaré comme journaliste à Télérama, d'écrire un papier sur moi. Vous vous rendez compte où on en est? Quand je parle de l'Inquisition, je veux dire, il y a tous les autres. Parce que c'est France Télévisions, mais tous ceux qui sont adossés à France Télévisions. On pourrait parler du monde Pigasse, par exemple. Bon, mais c'est important parce que ça imprime, parce que vous faites du mal aux gens, parce que vous déstabilisez, parce que c'est une bataille culturelle. Et il ne faut pas que les Français... il faut que les Français sachent, voilà. Et donc, c'est ça aussi que je raconte dans ce livre. Et donc, si vous voulez, à ce moment-là... j'ai senti qu'un certain nombre de mes collègues, ex-amis, etc., ou peu importe, étaient déstabilisés. Et donc aujourd'hui, je suis extrêmement prudent sur tout ça. Je vais même vous dire, il y en a certains que je n'appelle plus, parce que je ne veux pas les mettre en danger, vous voyez. J'ai appris des choses que je ne peux pas raconter, mais qui ne sont pas dignes, je veux dire. J'ai pas envie que des anciens amis, des anciens copains soient déstabilisés de différentes manières. Et je trouve que... Enfin, c'est terrible, ce que je suis en train de vous raconter. Vraiment, c'est terrible. Et donc, tout ça, je sais que c'est un problème pour ceux qui sont à France Télé aujourd'hui. Je sais aussi qu'il y en a d'autres qui sont très courageux, qui soutiennent et sont totalement d'accord. J'ai des conversations avec eux. Et puis, il y en a aussi une autre partie qui ne préfère pas avoir de conversation avec moi, pour les raisons que je viens d'évoquer, mais qui, en revanche, n'en pense pas moins. Et espère qu'une chose, c'est que ça se termine et que le service public redevienne le service public, esprit critique à l'égard de n'importe qui et n'importe quoi. Voilà.
Dans cette traversée du désert, un peu, en tout cas vis-à-vis de France Télévisions, parce que voilà, effectivement, vous avez une carrière à côté, tout s'est bien passé, il y a la manière mesquine dont vous êtes traité. Donc, évidemment, on ne vous prend pas au téléphone. Évidemment, les sociétés de production qui vous embauchent, vous développez des concepts d'émissions, on vous dit c'est génial, mais c'est juste que tu n'en feras pas partie. Enfin, bon, bref, là aussi, le livre est tout à fait éclairant sur la manière dont l'argent est un levier d'influence. Il y a quelque chose d'absolument stupéfiant, c'est la manière dont on décide en fait de supprimer vos émissions. C'est-à-dire, normalement, oui. Toutes les émissions sont en ligne. Et voilà, une centaine d'émissions ont été, je vous cite, foutues à la poubelle. C'est-à-dire, sur le site de France Télévisions, les émissions de Jack Cardoz n'existent plus. On a annihilé votre travail. C'est pas juste que vous êtes devenu persona non grata, c'est comme si vous aviez jamais bossé.
C'est l'inquisition totale. Pour ça que ce titre...
Je trouve ça très communiste plutôt qu'inquisitorial, mais voilà.
Ah c'est... Oui, alors après, bon...
Peut-être que les communistes sont des inquisiteurs, finalement.
Oui, non, mais...
Le côté photo de Staline avec le mec qui disparaît à côté de lui.
Ça se défend tout à fait, on peut le dire aussi comme ça. À peine avais-je le dos tourné en juin 21, que 15 jours ou 3 semaines après, toutes mes émissions avaient disparu du player, enfin le player, le site France TV.
Ce qui est très malhonnête, d'une part pour votre travail, mais aussi pour les équipes qui ont travaillé avec vous.
Surtout pour les équipes.
En fait, parce
surtout
que
pour les équipes.
Pour moi,
c'est blessant,
public,
si vous voulez.
C'est blessant, évidemment.
Il y a quelque chose d'intime et de blessant.
Mais il y a toutes les coulisses derrière, les monteurs,
le
tournage.
Parce qu'ils pourraient inventer un argument. On me disait récemment, et pourquoi pas une commission d'enquête sur les 3 émissions que vous citez, et tout ce que vous citez, il y aurait de quoi faire. Je dis, mais c'est pas une mauvaise idée. Si la question était posée, il pourrait par exemple invoquer le fait que j'ai prêté mon image à autre chose et à un domaine privé, que donc ils ont préféré...
Conflit d'intérêts.
Voilà, ils ont préféré ne pas faire de la publicité, entre guillemets, pour un club de foot. Enfin, ça sera un argumentaire un peu baroque, mais enfin bon, à la limite. Mais effectivement, il y a toutes les émissions que nous avons défendues, et il y a maintes et maintes façons de maintenir ces émissions à l'antenne, sans par exemple les laisser... incarner par moi et par mon visage, si vous voulez. Mais en plus, si vous voulez, c'est un argument qui est un peu fallacieux, parce que vous avez des journalistes qui sont passés par cette émission et qui aujourd'hui sont dans le privé, ont eu une autre histoire, etc. Moi, je pense que, si vous voulez, derrière ça, il y a quelque chose de nouveau dans les médias aujourd'hui. Et ça me fait penser à la fameuse phrase de Delphine Ernotte: on ne veut pas d'une télévision qui raconte la société telle qu'elle est, mais telle qu'on voudrait qu'elle soit. Et j'en parle beaucoup dans ce récit. C'est que je pense qu'il ne faut pas se tromper. C'est une bataille culturelle. Et donc, dans la bataille culturelle, il y a aussi occulter des pans de l'histoire. Il y a aussi occulter des récits. Il y a aussi faire des omissions pour mieux accentuer d'autres aspects. J'étais un personnage qui dérangeait ou qui était susceptible de pouvoir déranger, qui avait fait des émissions... qui peut-être dérangeait un peu. Donc, on s'est dit, table rase, on enlève tout, et puis on va réécrire une façon plus à même et qui corresponde mieux au discours qu'on a envie d'imprimer. Et voilà, c'est ainsi qu'ils ont poursuivi l'aventure avec Tristan Walex, qui, d'un point de vue éditorial, je pense, est très différent de ce que je peux faire moi. Moi, lorsque j'étais à la tête de Complément, j'explique souvent que lorsque je... J'aime pas, si vous voulez, l'alali. C'est-à-dire que j'aime pas lorsque on s'en prend à une personnalité quelle qu'elle soit, qu'elle est fautée. Moi, j'estime que toute personne a une part de bon et qu'on a droit à une deuxième chance et que j'aime pas noircir le tableau d'une personnalité qui a été adulée. Par exemple, je raconte Dupond-Moretti. Et je raconte que lorsque le plan du portrait m'a été présenté pour la première fois, c'était 90% négatif. Et j'ai dit, attendez, pardon, mais enfin, Dupond-Moretti, on peut penser ce qu'on veut. Moi, je suis pas un adorateur de Dupond-Moretti, mais je veux dire, il arrive ministre de la Justice, c'est pour les Français acquittateur. C'est celui qui a réussi à acquitter un certain nombre de gens. Après, on peut contester, hein, je veux dire. Mais le personnage, est-ce qu'il développe comme personnalité. Mais je veux dire, voilà. Donc là, à ce moment-là, j'ai considéré qu'il fallait qu'on soit beaucoup plus nuancé. Donc, je disais souvent à l'équipe, je veux qu'on passe par toutes les nuances de gris, mais je ne veux pas un complément blanc ou noir. Ça n'existe pas, parce que personne n'est comme ça. Voilà, et donc il y a eu toute une série de portraits. Quand on a fait Carlos Ghosn, c'était pareil. On ne peut pas partir du principe que Carlos Ghosn, il est forcément mauvais à partir du moment où il a un problème avec Nissan, parce qu'il y a des histoires judiciaires, parce qu'il y a, etc. Donc c'est bien, on va traiter tout ça. Mais on va aussi traiter la façon dont il est monté, la façon dont il a réussi à récupérer aussi cette entreprise. Bref, c'est-à-dire que sur tous les sujets, il y a des nuances. Et moi, j'aime bien présenter. Voilà. Et donc cette nuance, je pense aussi que c'est une... c'est éviter le côté spectacle, c'est éviter le côté jugement, le jugement stalinien si vous préférez, mais c'est voilà. Et donc on n'est pas des journalistes de jugement. D'ailleurs c'est totalement antinomique. On n'est pas là pour juger. On n'est pas des. Je parle de la façon de faire beaucoup d'Élise Lucet, pour qui j'ai du respect pour ce qu'elle a réussi à faire, mais je considère que c'est pas une bonne manière. On poursuit pas les gens. De cette façon-là, on n'a pas cette envie de vouloir accuser, parce que si on part dans cette idée-là d'un journaliste magistrat, alors dans ce cas-là, il faut que la défense ait les mêmes moyens que l'accusation. Oui. Et ça ne sera pas le cas, parce que l'appareil médiatique fait que ça ne peut pas être le cas. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ce journalisme-là.
Vous dites qu'à propos d'Élise Lucet, cette émission relève du journalisme d'insinuation. Le problème de France Télévisions, c'est Élise Lucet. Je ne sais pas quel statut elle occupe dans le service public, mais elle doit avoir des dossiers sur tout le monde. Autrement, ce n'est pas explicable. Vous citez quelqu'un. Parlons d'Élise Lucet. On ne peut pas déterrer un scandale par semaine. Ce n'est tout simplement pas possible. Mais quand un cahier des charges vous impose du scandale, toujours du scandale, alors on bascule dans autre chose. Et ça, c'est France Télévisions qui l'accepte.
Ça, c'est une personnalité très importante du monde des médias qui me confie tout ça. J'approuve ça, parce que si vous voulez, je pense qu'il y a eu en plus une perversion de ces émissions. C'est-à-dire que Envoyé spécial, quelque part, c'était un peu le Paris Match de la télé. Il y avait l'idée qu'on allait découvrir des choses, on partait à l'étranger, etc. C'était du grand public. À partir du moment où vous en faites une émission à moitié d'investigation, bah, d'une certaine façon, vous dites à vos équipes, va falloir déterrer plus. Or, il y a déjà une émission d'investigation, et une très bonne, qui s'appelle Cache Investigation, même sur le plan éditorial. Je ne suis pas totalement d'accord avec tous leurs choix. Mais si vous voulez, à partir du moment où vous avez déjà un cache, vous ne pouvez pas faire en sorte que les autres émissions lui ressemblent trop. Et donc, je pense qu'à partir du moment où vous confiez à la même journaliste deux émissions, vous finissez par tout confondre, et vous finissez par... donner les clés de l'ensemble des émissions d'information et d'investigation, et donc de la bataille culturelle quelque part, à une seule personne. Et je pense que si ça a été fait, c'est parce que Élise Lucet fait peur, et fait peur à tout le monde, y compris à la présidence, y compris à la direction générale. Elle exerce une forme de pression sur tout le monde. Donc oui, elle a réussi quelque chose de formidable avec Cash. L'erreur qu'a initié le premier patron de l'info de Delphine Arnaud, qui s'appelle Michel Field, qui a consisté à lui confier les rênes d'envoyé spécial, a conduit, à mon avis, à lui donner trop de pouvoir. Et maintenant, ils ne savent plus comment revenir en arrière. Envoyé spécial, cash et complément d'enquête, c'est 40 émissions par an. 40 fois 300 000 euros, c'est beaucoup. C'est nécessaire, parce qu'il est important que le service public ait des vraies émissions d'information et d'investigation. En revanche, il est absolument nécessaire que ces émissions-là s'interrogent sur ce qu'elles font, sur l'équité, sur la partialité, sur être en contact avec l'opinion, refléter les préoccupations premières des Français, et à mon avis, ils s'en éloignent.
Merci beaucoup Jacques Cardoz. Donc encore une fois, lisez Les Inquisiteurs aux éditions Fayard, donc sur la manière dont les magazines France Télévisions ont été peu à peu bouleversés, pervertis, la manière dont l'audiovisuel public a évidemment pris parti, c'est raconté de l'intérieur, c'est bourré d'anecdotes, ça va à toute allure. On n'apprend pas que le salaire de Delphine Ernotte, on apprend tout le reste, et c'est encore plus scandaleux. Merci beaucoup Jacques Cardoz d'avoir été avec
Richard,
nous.
Merci infiniment Richard de m'avoir invité.
Voilà, demain vous retrouvez Arthur de Vatrigan pour un autre Restons Courtois, et moi ce sera la semaine prochaine.
Ça suffit maintenant.